La radiodiffusion française vous invite à écouter.
Le témoin de ce vendredi, c'est Marilyn Débiol avec Rodin.
Ce grand sculpteur du mouvement était un être quasiment immobile, impassible. Oui, il frappait par l'économie de ses gestes, par son silence, rompu de temps à autre par une étonnante réflexion sur l'art ou sur la nature.
Témoignage de Georges Lecomte, un vieil ami du maître. Si Rodin avait la réputation de parler peu, si les mots lui venaient assez mal, c'est que les mots demeurent impuissants devant la sculpture. Si on ne retrouve pas dans son Balzac ou dans ses Bourgeois de Calais ce qu'on s'attend à y voir, c'est qu'une sculpture de Rodin ne ressemble à personne. Si on peut difficilement dater le début et la fin de chacune de ses œuvres, c'est que Rodin bousculait la chronologie. Dans son atelier étaient disposées ici des figures de terre entourées de linges mouillés qui témoignaient d'un premier mouvement, là des moulages de plâtre qui rendaient compte d'un autre, autant de même bras disjoncta, de pièces détachées qu'il greffait, assemblait, réarrangeait, se résolvant difficilement à ce qu'il y ait une fin. Pour parler au plus près de l'onde de choc que faisait se lever ses mains, il faut écrire depuis l'atelier du sculpteur.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ce que fait Marilyn Débiol, bonjour.
Bonjour.
Dans un beau livre, une collection s'ouvre chez Fayard, intitulée « Des vies ». Votre ouvrage s'intitule « Avec Rodin ». Vous parlez depuis l'atelier du sculpteur, vous?
C'est mon... Disons que c'est le point de vue de ce livre.
Il y a des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous parlez depuis l'atelier d'un sculpteur.
C'est que je vis avec un sculpteur et que mon petit bureau est pratiquement au cœur de cet atelier et que de mon bureau, j'entends les bruits de l'atelier. Dès que je sors de mon bureau, je peux voir aussi les sculptures en mouvement, en train de se faire. Et que ça a été mon viatique, d'une certaine manière. Ça m'a permis de moins avoir peur de m'atteler à cette tâche, de parler de Rodin.
Alors vous avez lu des biographies, vous oui. avez exploré certaines archives, mais l'exercice que je vous propose n'est pas académique. Vous êtes le témoin, vous parlez de votre vie depuis plusieurs années avec Rodin. On peut bousculer la chronologie, ce que Rodin faisait sans cesse tout de même. Si vous étiez commissaire d'exposition, vous devriez dire, Marilyn Débiol, il est né quand?
Il est né de qui? En 1840. Il est né à Paris, dans le quartier de la Mouffe, qui était d'ailleurs un quartier très mal famé à l'époque. Et puis ensuite, il a vécu dans le coin, hein, pas très loin du Panthéon. C'est beaucoup plus tard qu'il franchit... la Seine et qu'il est allé rive droite.
Donc, jamais loin de la cathédrale Notre-Dame de Paris quand il est dans ses débuts dans la capitale.
Oui.
Les cathédrales,
oui.
C'est important.
Ah, les cathédrales. C'est quelqu'un qui lève les yeux. Enfin, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup, évidemment. Et c'est quelqu'un qui lève les yeux, oui, beaucoup.
Il va beaucoup souffrir en 1914, 15, 16 des destructions qui affectent les cathédrales. Alors, on fait le début, on fait la fin. 1917, c'est le centenaire de sa mort cette année. Il est mort au milieu de la guerre. C'est vrai qu'il est mort à moitié gelé.
Mort à Meudon, dans sa petite maison de Meudon, qui n'est pas une maison bourgeoise, qui n'est pas une maison très confortable. Et puis les tuyaux avaient éclaté, les tuyaux du chauffage, et donc il faisait très très froid. Rose, sa femme, est morte la première, quelques mois avant, et puis lui. Bon, il avait déjà eu des petites attaques, il n'était plus vraiment là. Mais on peut dire qu'il est mort de froid, oui.
1840-1917, alors on a le cadre. Si vous étiez commissaire d'exposition, vous devriez nous parler de ces années de formation. Alors il disait, moi ce que j'ai appris, ça vient des arbres, ça vient de la nature, ça peut venir des cathédrales, ça ne vient pas de l'atelier. Je n'ai pas été un élève, oui.
Enfant, il était assez mauvais à l'école, on peut dire. On a appris assez tard qu'il était myope, et ce qui pouvait expliquer ses difficultés à l'école. En revanche, il avait beau être myope, il dessinait énormément, enfant. C'est ce qu'il faisait de mieux. Dieu sait pourquoi, parce qu'il n'était pas du tout dans une famille de peintres, puisque son père était fonctionnaire de police.
Oui, mais son père croyait en son destin.
Exactement, parce que, vous savez, autour de Rodin, d'ailleurs autour de beaucoup de choses, on a eu beaucoup de préjugés, d'idées toutes faites, donc on s'est dit fonctionnaire de police. Donc voilà, il a dû contrer son fils, pas du tout. En vérité, il a beaucoup cru en lui. Et quand Rodin a raté le concours des Beaux-Arts, 3 fois de suite d'ailleurs, c'est lui qui l'a soutenu. Et en lui disant qu'il serait quelqu'un. Il a toujours cru que Rodin deviendrait un grand homme, au fond.
Et le premier œuvre d'Auguste, c'est un buste de exactement. Jean-Baptiste, le père. Oui, mais un peu d'ordre, si vous voulez bien, Marilyn Desbiols. On parlait de ses qualités de dessinateur, dont témoigne ici le fils de Roger Marx. Roger Marx était un ami fidèle d'Auguste Rodin. Son fils s'appelle Claude Roger Marx.
J'ai vu dessiner Rodin. C'était à Meudon. Il était assis très bas sur un petit tabouret au niveau du sol. Il y avait quelques pots de couleurs, un bleu, des ocres, un vert. Et Rodin, avec une rapidité extraordinaire, faisait passer des feuilles devant lui. Et sans quitter un seul instant des yeux le modèle, pour ne pas interrompre l'espèce de fluide créateur, Rodin dessinait. Et suivant les hasards, suivant l'inspiration, suivant le contact qu'il avait avec ce modèle, qui était comme un instrument qui improvisait librement devant ses yeux, il y avait des dessins plus ou moins informes, et des dessins au contraire d'une sûreté et d'une précision qui montraient que cet homme était avant tout, et qu'il était d'abord, s'il était un si grand sculpteur, d'abord un admirable dessinateur.
Avant tout, d'abord, finalement, un dessinateur. Oui, mais quand on vous lit, c'est peut-être parce que vous vivez avec un sculpteur, vous expliquez sans cesse, Marilyn Desbiols, qu'il ne faut pas mettre la sculpture derrière la peinture et le dessin.
Non, ça va de pair. Le sculpteur que je connais, comme je le nomme dans ce livre...
On finira peut-être tout à l'heure par le nommer, enfin on verra.
On verra. Dessine, il a des sessions de dessin. Ça va avec, si j'ose dire. Ça va ensemble. Et la sculpture influence son dessin et vice-versa. C'est indémêlable. Et Rodin a commencé par dessiner, puis son dessin est devenu d'une liberté absolument, absolument folle. Mais la sculpture, évidemment, a joué un rôle fondamental dans cette liberté qu'il prend avec le dessin. Quand il va dessiner des danseuses, c'est sa façon à lui, au fond, de danser. Il danse littéralement en dessinant. C'est vraiment des dessins extraordinaires, mais je pense qu'il a fallu toute sa vie de sculpteur pour arriver à cette liberté.
Si je peux me permettre, l'inconvénient du sculpteur avec qui vous partagez votre vie, c'est qu'il fait plus de bruit que Rodin. Parce que Rodin, on le voit avec des outils dans le film qu'a tourné à la fin de la vie de Rodin, Sacha Guitry. Mais d'habitude, on le voit pas avec des outils, parce que ce qui est le plus important pour lui, c'est de modeler en silence la glaise.
Oui, Sacha Guitry nous fait croire que Rodin sculpte la matière directement, mais pas du tout. En fait, il a des praticiens, Rodin, et ses outils, ce sont le crayon et la terre. Et la terre, pour lui, c'est vraiment quand il a découvert la terre... Il a dit d'ailleurs qu'il est monté au ciel. Encore la cathédrale, le ciel, l'élévation. Bon, il est monté au ciel avec la terre, si dans cette formule formidable, je trouve. Et il modèle, oui. Vraiment, c'est un modeleur. D'ailleurs, Camille Claudel avait dit quand ils se sont quittés, ce n'est qu'un modeleur.
Mais Nathan Gallo, qui prépare le site de l'émission, m'a dit c'est quoi cette phrase ? L'onde de choc que faisait se lever ses mains. Alors, je ne sais pas si c'est du Marilyn Desbiols, mais Marilyn Desbiols vient de dire « Il me semble que je monte au ciel en travaillant la terre ». C'est
oui,
étrange.
C'est étrange, oui. Mais d'ailleurs, Rodin, c'est un peu l'union des contraires, quoi. Il est, il a l'air aussi, on l'a dit, silencieux. Et on a une image de lui presque un peu rustique, alors que Mirbeau, par exemple, qui a été son grand ami, dit qu'il est capable de parler très poétiquement, qu'il a une grande culture. Donc, on dit quelque chose de Rodin, et puis immédiatement, on est contredit. C'est ça qui est formidable aussi. C'est la preuve de son grand art. et aussi d'un personnage hors norme.
Alors vous allez nous raconter comment vous faites votre livre. Alors pour venir à France Inter, vous voulez dire j'ai consulté les archives, j'ai lu beaucoup de biographies. En fait, à l'examen de Avec Rodin, votre livre chez Fayard, je vois que il vous arrive de prendre le métro, pas à n'importe quelle station, Vavin. Pourquoi Vavin ?
Pourquoi Vavin ? Parce qu'il y a cette formidable sculpture du Balzac. Ouais. Que l'on finit par oublier parce qu'elle est dans la circulation, elle est en hauteur. Il y a des gens d'ailleurs qui m'ont, ça m'a fait grand plaisir, qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu tout simplement en lisant le livre.
Alors il s'est produit une scène que raconte le Parisien dans le métro il y a peu de jours. Il y a un monsieur qui a invectivé l'affiche de l'exposition du Grand Palais. On ne doit pas montrer les femmes comme ça. Et vous montez dans le métro à la station Vavin, vous vous asseyez. Et vous voyez un homme.
Oui, c'est-à-dire qu'on dit souvent que les écrivains dévoilent les sculptures ou les peintures. Moi, je crois que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que la peinture ou la sculpture nous donne un autre regard, oui. Et au fond, ce qui m'a guidée dans ce livre, outre les archives, etc., tout l'appareil critique, n'est-ce pas, c'est l'exemple de Rodin.
Oui, mais attendez, ne déviez pas. L'homme qui est en face de vous, il est beau.
Ah, il est formidable. Il est très intense. Il est barbu, bon. Ce qui peut, comment dire, être une piste. Le nez, oui. Alors, qui est comme un... Je ne sais plus quelle est exactement la formule de Rilke, mais qui dit qu'il y a une sorte de hiatus entre le front et le nez.
Bon. Rilke, qui a été le secrétaire de Rodin, voilà. Qui habitait l'hôtel Biron. Oui. Oui. Et puis la présence physique,
il est assez costaud. Ouais. Il a des grandes mains, apparemment des grands pieds aussi. Il est habillé d'une façon, un petit peu rustique, allez. Et quand il se lève, en plus, il est petit. Ce Rodin est petit et costaud, quoi. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que le physique des sculpteurs ne correspond pas à leur art et à leur souvent, hein, et à la démesure de leur sculpture. Et l'intensité de sa présence, tout d'un coup, j'ai le sentiment que
il pourrait faire pencher le métro.
En tout cas, qui pourrait être un Rodin tout à fait. Oui, formidable.
Et comme on est dans le monde contemporain, votre type, il porte bien sûr des écouteurs. Et il vous arrive, vous allez rejoindre peut-être un jour l'arrière-pays niçois, en TGV. Il vous arrive, vous aussi, d'écouter de la musique en pensant à Rodin dans le TGV ?
Ben dans le TGV, oui, j'écoute de la musique et j'espère que c'est que ça met le livre en mouvement, au fond.
Et on a choisi le morceau que vous citez du groupe américain Death Sleeper.
Cried the other night, I can't even say why. Fluorescent, flat, caffeine lights, it's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint. Gray, my night is color. Headache breaks on, wake me so much. The ocean machine is set to nine. I'll squeeze into Helen and Valentine. My bed is pulling me. Gravity, day sleeper. Day.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
En compagnie de Marilyn Débiol qui publie Avec Rodin, nous sommes au moment du centenaire de la mort de Rodin, une exposition au musée Rodin, Anselme Kiefer confronté à Rodin. Vous l'avez vu, non ? Ben non, les gardiens étaient en grève. Une exposition au Grand Palais, je ne sais si on en parlera, peut-être tout à l'heure, plusieurs livres et Le vôtre donc aux éditions Fayard. On pourrait peut-être mettre un peu d'ordre dans cette émission. Quel est le rapport entre un dormeur de jour, le TGV et Rodin? Peut-être que sous les écouteurs, vous regardez le paysage qui se modifie depuis un train qui roule à 300 km à l'heure en vous demandant ce qu'en aurait fait le sculpteur.
Oui, j'aimerais que qu'au fond cette musique soit la bande son du livre, que ce soit et que le livre soit comme un roadbook au fond, qu'il soit en mouvement, qu'il ait une sorte de d'allant, oui, j'aime assez ce mot. Et en même temps, comment dire, c'est aussi ma façon d'essayer d'entrer dans cette sculpture qui fuit aussi, curieusement, puisque la sculpture c'est quelque chose de lourd, de contraignant, qui fuit justement ce qui est pesant et qui essaie d'être en mouvement précisément. Non seulement dans la forme même, mais aussi dans le fait que les figures sont, composent d'autres groupes, qu'elles sont toujours associées assemblées indéfiniment à d'autres.
Machinées. C'est un mot moderne qui va bien avec TGV.
Exactement. Ouais. On pourrait dire que Rodin machine ses sculptures, ça serait pas mal.
Et puis, il y a un rapport entre Marilyn Desbiols et Rodin depuis longtemps, parce que, est-ce qu'on l'a dit, vous partagez la vie d'un sculpteur? Est-ce qu'on a donné son nom?
Non, il me semble pas.
Non. Alors, on va l'entendre, justement. Il est avec son vieux complice, Xavier Girard. Et dans un atelier, dans l'arrière-pays niçois, celui que peut-être vous rejoignez en TGV.
La sculpture que tu fais est une sculpture du dehors, du grand dehors, qui n'aime pas être à l'étroit.
C'est au moins une sculpture que je fais dehors, que je fabrique dehors, puisque mon atelier est un atelier ouvert sur l'extérieur. Ce n'est qu'un toit léger. Et au fond, quand je travaille face au paysage environnant. Et même c'est bien, j'aime assez que des éléments extérieurs, des matières que l'on voit habituellement à l'extérieur, de les mettre... À l'intérieur, c'est quelque chose que l'on voit en plein air. Par exemple de la pierre, par exemple du béton, par exemple du métal oxydé, par exemple du bois calciné. Bon, voilà des éléments que l'on voit peut facilement rencontrer à l'extérieur, qui sont constitutifs de sculptures, qui sont faites pourtant pour l'intérieur.
Suspense insoutenable, c'est une émission de France Culture avec qui déjà?
Avec Bernard Pagès.
Ah, ça y est, vous avez donné son nom. Sculpture en plein air.
Oui,
c'est un mot que vous aimez bien aussi. Et que Rodin aime bien. Plein air.
Oui, il parle beaucoup du plein air et d'ailleurs il dit de son Balzac qu'il a fait faire un pas à la sculpture de plein air. En effet, outre les archives, c'est vrai que l'exemple du sculpteur avec qui je vis, de Bernard Pagès, a été majeur dans ce livre. Et je dois vous dire que c'était d'ailleurs un grand bonheur de ce livre aussi, c'est qu'on parlait constamment de Rodin. Et ça, c'est formidable parce que les mots du sculpteur ne sont pas les mots habituels. Par exemple, dans les lettres de Rodin, il écrit pas avec une orthographe merveilleuse, mais il emploie des mots qui sont toujours très parlants, qui sont toujours concrets. Qui ne sont jamais abstraits. Il y a une façon de parler de la sculpture, moi, qui a beaucoup influencé mon écriture d'une certaine manière.
Alors, la sculpture en plein air, c'est le porche des cathédrales, avec les sculptures qui peuvent être recouvertes de mousse. Mais là, elles sont inscrites dans un ensemble. Est-ce qu'avec Bernard Pagès, vous parlez du socle quand on met les sculptures en plein air dehors?
Oui, beaucoup.
Alors,
parce que le socle, c'est très important. Mais le socle, c'est vraiment, ça a été majeur. C'est un problème majeur pour la sculpture moderne et contemporaine. Et Rodin, il a fait des merveilles avec les socles. Il a placé des sculptures très très haut sur des socles totalement inappropriés. On dirait que les sculptures vont tomber. Les sculptures ont l'air plus grandes que la base du socle sur lequel ils sont posés. Elles sont trop grandes. Et pratiquement, quelquefois, on les voit mal. C'est comme dans les cathédrales où les sculptures sont offertes au ciel aussi.
C'est tout un débat à Calais, entre la municipalité de Calais et le sculpteur des bourgeois de Calais, voilà. La hauteur.
Exactement. Puis il faut dire que la sculpture est toujours est souvent maltraitée. On n'écoute pas ce que dit le sculpteur. Il veut que les bourgeois de Calais, par exemple, soient à même le sol, et on lui colle une espèce de socle invraisemblable. Il a disparu aujourd'hui. Hein. Mais pour commencer, c'était comme ça. La sculpture, elle est toujours un corps en trop, quoi. C'est toujours un problème dans la ville et tout ça. Et le sculpteur doit toujours batailler avec ça.
Elles sont peut-être mieux dans le jardin de Meudon, de Rodin. Ces sculptures, il s'était dit que Balzac, il pouvait le garder chez lui. Si la Société des gens de lettres n'en voulait pas, et s'il n'acceptait pas les conditions que les pétitionnaires qui le soutenaient voulaient lui imposer. Alors Meudon, parce que tout le monde parle du Grand Palais, du musée Rodin, dont les gardiens vont finir peut-être par permettre, ayant obtenu un certain nombre d'avantages, la réouverture. Meudon, 13 000 visiteurs seulement, oui, par an. Il faut s'y précipiter.
C'est vrai. On comprend beaucoup de choses, il me semble, en allant à Meudon. Non seulement parce qu'on voit les sculptures en plâtre, la forêt de sculptures en plâtre. Et puis aussi, on voit les abattis, c'est-à-dire les morceaux de corps
qu'on machine,
que Rodin ensuite machine. Mais aussi, on voit sa maison. Et on voit sa maison qui est très modeste.
Il l'a louée en 1893, achetée en 1895.
Exactement. Ouais.
Et puis on voit le jardin.
Et on voit le jardin aussi.
Alors dans le jardin, il y a des pavillons.
Voilà.
Et puis, ils sont rassemblés là, ou plutôt sont disséminés là, des figures qui lui appartiennent ou des antiques qu'il a achetées?
Alors voilà, ben les deux. Et quelquefois assemblés.
Donc c'est une bonne adresse.
C'est une très bonne adresse.
S'il y a trop de monde au Grand Palais. Bonne adresse du passé, c'était le titre d'une émission de radio.
C'est dans ce jardin que Rodin aimait à se promener, allant d'un des personnages des bourgeois de Calais jusqu'à sa collection d'antiques, en suivant le bord d'un bassin, en se baissant pour passer sous un arbre avant de rejoindre le bord de la terrasse. S'arrêtant ici pour admirer un sarcophage finement sculpté, là une femme dont le drapé l'enchantait, encore ici où un buste évoquait pour lui tout l'art d'une civilisation révolue, enfin là où la pierre a toujours gardé le sourire de l'ange, ce fut ce même sourire que l'ange adressait à Rodin. Marbre des temps anciens, comme le sculpteur vous collectionnait amoureusement, comme il aimait vous rencontrer au détour de ses sentiers pour vous faire admirer par la femme qui s'appuyait sur son bras. Un jardin sans une femme, voilà qui ne pouvait se concevoir dans le monde de Monsieur Rodin. Ne disait-il pas?
Une des choses les plus délicieuses qui soient, c'est de se promener sous les arbres avec une femme.
Vous voyez, Marilyn Desbioles, où je veux vous mener. Alors, il y a Rose d'abord dans,
oui,
le jardin. Alors, Rose.
Qui est majeure à Rodin, à Meudon. À Rodin aussi d'ailleurs. À Meudon, où elle vit, elle tient la maison. D'ailleurs, elle a été aussi l'ouvrier de Rodin, puisque c'est elle qui, au début, avait la charge de maintenir les terres mouillées en y posant des linges, etc. Donc il connaît Rose depuis toujours. Il vit avec elle depuis toujours. C'est sa compagne. C'est même son ami, je dirais, parce qu'il lui écrit souvent des petits mots assez, comment dire, assez secs, mais il finit toujours par ton ami Rodin. Qui peut prétendre, oui, rester ami avec une femme pendant 50 ans.
Gardienne des figures, je ne veux pas vous mener sur ce terrain, elle lui apporte aussi la nature.
Oui, exactement, parce que Rodin est né à Paris, au cœur de Paris, mais Rose, elle vient de la campagne, qu'elle connaît très bien. Et c'est Rilke qui nous apprend ça, c'est qu'elle nomme les arbres, elle nomme les plantes, elle cueille des fleurs, et elle est mystérieuse, Rose. C'est peut-être la femme la plus mystérieuse de toutes les femmes qui ont gravité autour de Rodin. Moi, elle m'a beaucoup plu.
Qui sait quelque chose de Rose? Camille Claudel, venons-en à Camille Claudel, l'a représentée en sorcière.
Oui, c'est pas ce qu'elle a fait de mieux. Mais en tout cas, avec Camille Claudel, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont travaillé ensemble.
10 ans.
10 ans, c'est quand même exceptionnel. Hein. Deux sculpteurs confrontant leur passion. J'imagine que ça a dû être un truc formidable. Et puis Rodin a éprouvé une passion folle pour elle.
Recommandation, Nogent-sur-Seine ouvre aujourd'hui un musée Camille Claudel. On peut aussi y aller.
Oui,
il y aura peut-être moins de monde qu'au Grand Palais. Vous avez beaucoup de goût pour Paul, le frère de Camille.
Oui, 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 j'ai cette faiblesse. Je trouve, c'est un. Il faut redécouvrir ce. Il faut essayer. Moi, ce que j'ai essayé dans ce livre, c'est de me laver les yeux et puis de me débarrasser de tous les préjugés, de toutes les poncifs qui entourent le personnage de Rodin. Il faut faire la même chose pour Paul Claudel, parce que c'est un poète étonnant, vraiment très étonnant. Et il faut le redécouvrir, je crois, essayer là encore de se laver.
Il n'a pas abandonné la recluse, contrairement à ce qu'on dit parfois. Rodin n'a pas abandonné la recluse, c'est-à-dire Camille, internée depuis 1913. Non, il l'a aidé quand même.
Il l'a aidé, oui.
De loin, peut-être.
Camille Claudel va être enfermée dans cet hôpital psychiatrique 20 ans après la rupture. Entre-temps, Rodin va continuer, parce qu'il admirait vraiment sincèrement sa sculpture, il a essayé de faire acheter ses œuvres. C'est Camille qui veut absolument plus entendre parler de lui, qui pense qu'il l'espionne, etc. Bon, il faut dire que Camille Claudel, elle ne méritait sans doute vraiment pas d'être internée pour ça, mais elle était assez paranoïaque.
On arrive à la fin. Le repos est monotone. Il a la tristesse de ce qui finit. Le travail, lui, n'a pas de fin, chez Rodin.
Non. D'ailleurs, c'est la porte de l'enfer qui est cette œuvre infinie et qui n'a pas fini, d'ailleurs, qui va l'accompagner de 1880 jusqu'à la fin de sa vie. Cette œuvre n'est pas finie. Et toutes les figures qui sont dans la porte. Vivent leur vie encore.
Et puis le regard de ceux qui tournent autour de l'œuvre, parce qu'une œuvre, c'est fait pour tourner autour, change. On peut tourner autour des sculptures au Grand Palais.
Il faut essayer.
Il faut essayer. Bon, c'est parfois un peu collé le long du mur.
La nuit tombait, Rodin regardait son œuvre, et devant mon père et moi, il tira une petite bougie de sa poche, l'alluma, fit le tour de son œuvre, car vous savez qu'une sculpture, on ne la regarde qu'en tournant tout autour, et que son grand art a été celui de connaître la diversité des profils dans une sculpture. Et alors l'œuvre changeait avec le clair-obscur qui l'enveloppait, et Rodin disait « Regardez comme c'est beau ». Et ces paroles, on pourrait les interpréter comme des paroles de vanité, ce n'était pas du tout cela. C'était qu'il s'étonnait lui-même de la richesse de cette forme, c'était, je crois, un torse féminin, et de la variété de ses aspects, de tout ce qu'il voyait encore de possible à tirer de cette forme qu'il avait fixée, et son admiration était toute de modestie.
Merci à vous, Marie-Line Débiol, votre livre chez Fayard avec Rodin. Merci à Valérie Estaraille, la réalisation, à Ilinka Negulesco, la préparation, à Fabrice Desmaz, la fabrique de la sculpture, la technique, Mathieu Vidard avec son club, et au Salon du Livre, pardon, à Livre Paris, vous pouvez aller l'applaudir et le complimenter, il est en public.